cycle des existences. Merci.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça va, ça marche au niveau du son, vous m'entendez ou c'est pas terrible? Bon, on va prendre la main peut-être. Oui, comme ça, j'imagine que c'est mieux. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous cette nouvelle fois pour continuer ce que nous avions commencé l'an passé. On avait parlé de beaucoup de choses d'ailleurs jusque-là, puisqu'on avait cerné de manière générale ce qu'étaient les fondements même du bouddhisme. On avait parlé aussi de, en deuxième enseignement, je crois, un souvenir de ce qu'était le sens vraiment de cette existence humaine, ou du moins comment lui donner un sens et comment elle pouvait devenir d'une existence humaine ordinaire, une précieuse existence humaine. Nous avions parlé aussi, et ça, on pourrait dire d'une certaine manière, de triste mémoire de l'impermanence et de la mort, et nous avons vu notre pagode flamber la nuit d'après, ce qui nous mettait au cœur de la pratique, du renoncement. À la fois dernière, nous avons parlé aussi d'un point essentiel, du message du Bouddha, qui était donc la loi de causalité, la loi de cause à effet, la loi du karma. Et puis cette fois, donc, nous allons aborder un autre sujet qui est toujours dans le courant de cette pensée bouddhiste, mais aborder d'une autre manière peut-être fait de manière traditionnelle. C'est la psychologie du cycle des existences. On va voir. On va donc évoquer ce thème-là, mais à partir de ce que nous sommes nous-mêmes dans notre vie quotidienne, et voir ce que ça veut dire réellement dans notre quotidien. Voilà, tout d'abord, le veut la tradition, je vais faire quelques prières de façon à nous rappeler le sens même du refuge, dans ce qu'on appelle les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la communauté, la Sangha, et faire des souhaits pour le bien de tous les êtres, pour la paix dans le monde. Donc c'est la prière donc, que je vais faire maintenant, si vous voulez bien. Silence, sans rien faire de particulier. Pourtant, c'est le fondement même de toute la pratique spirituelle. C'est d'arriver à créer un espace de tranquillité intérieure afin de reprendre contact, de se reconnecter avec ce que nous sommes nous-mêmes et ce que nous ne parvenons pas à faire ordinairement lorsque nous sommes absorbés dans toutes nos activités. Spirituelle, bien sûr, elle démarre par là. Ces moments de silence, ça va être bien sûr les sujets de mes enseignements l'année prochaine, puisqu'on va essayer de parler de ce qu'est-ce que la méditation, de la mise en pratique de la méditation. Et la méditation, elle nous permet de nous rencontrer nous-mêmes, de faire connaissance avec nous-mêmes. Et nous, on ne se connaît pas. On veut connaître le monde, manipuler le monde, on va même sur les planètes, et notre plus grand inconnu, c'est nous-mêmes. Vous admettrez quelque part qu'il y a une espèce d'absurdité en même temps. Et la voie spirituelle commence par ça. Arrêter toute activité extérieure, se poser, arrêter cette course folle cette fille dans les choses du monde, s'asseoir, rester tranquille et se regarder. Et si on arrive à faire ça, je vous assure, c'est le plus grand acte de bonté et de compassion que l'on puisse s'accorder. L'enseignement du Bouddha est extrêmement vaste et profond. Il est un petit peu comme un joyau qui comporterait une multitude de facettes. Et selon l'angle où nous pourrions observer ce joyau, nous aurons des éclairages différents, des reflets différents, des rayonnements différents, des aspects, des manifestations différentes. Cependant, dans cette diversité, le fondement même, c'est le joyau. Et c'est pour ça que le bouddhisme est riche aussi en forme d'enseignement, mais tous ces enseignements nous amènent finalement au même but. Le but principal, essentiel de la voie bouddhiste, c'est de nous libérer de nos conditionnements intérieurs, de nous libérer de notre souffrance, afin de pouvoir toucher, expérimenter et réaliser notre bonté fondamentale, notre nature véritable qui est en nous et que nous ne voyons pas du fait de nos voiles, le voile qui recouvre notre esprit. Et selon l'angle où on se dirige dans cet enseignement, finalement, il nous donne un éclairage qui est peut-être différent d'autres, mais l'essence même est toujours la même chose, c'est l'éveil. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des six mondes, ou classes d'êtres du cycle des existences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un qui est bouddhiste, bien sûr, c'est vraiment évident. C'est quelque chose qui est bien intégré, ou du moins qui a déjà été abordé. Mais pour quelqu'un, comme nous, occidentaux, qui ne sommes pas forcément versés dans cette tradition, qui sommes des néophytes, qui avons une conception très judéo-chrétienne de notre vie, de ce qui se passe autour de nous, de notre vie spirituelle aussi, c'est quelque chose qui nous paraît complètement inconcevable. Ça. Déjà, pour nous, nous avons l'idée, peut-être, que nous sommes le centre de l'univers. Finalement, la vie humaine, c'est quelque chose qui nous est dû. Nous sommes là, nous sommes apparus dans ce monde. Ça nous semble normal, légitime. On ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres formes de vie quelque part, d'autres formes de manifestation. Nous pensons, et c'est l'orgueil de l'être humain, nous pensons que nous sommes le centre de tout. Déjà, nous-mêmes, nous pensons être le centre de notre environnement, et en tant qu'être humain, nous pensons que nous sommes le centre de l'univers, et que, hormis nous, il n'y a rien d'autre. C'est un concept, et comme tous les concepts sont discutables, celui-ci l'est, bien entendu. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, il l'est. Le Bouddha dit, mais des mondes, il y en a à l'infini. Tout simplement parce que l'espace qui est autour de nous est infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et partout où il y a de l'espace, il y a des êtres qui peuplent cet espace. Et comme l'espace est infini, bien entendu, le nombre d'êtres qui peuplent cet espace est lui aussi infini. Pour nous, en effet, c'est inconcevable tout simplement parce que nous ne les voyons pas, nous n'en avons pas conscience. Et pourtant, tous ces êtres qui peuplent cet espace sont un petit peu d'une certaine manière à notre image dans la mesure où ils expérimentent à la fois, pour certains, une alternance de bonheur et de souffrance, pour d'autres, que de la souffrance. Pour d'autres, un certain bonheur, qui est certes très relatif. Tous ces êtres ont des expériences, mais qui nous ressemblent, qui sont des expériences que nous pouvons nous-mêmes vivre, expérimenter, puisque le nom veut bien dire ça, expérience, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente, que nous expérimentons dans notre quotidien. Regardons, dans une journée, quels sont nos états d'esprit. Le matin, par exemple, nous pouvons trouver la vie extraordinaire, nous lever le matin, nous sommes en forme, il fait bon, toutes les choses nous paraissent agréables. Et puis le soir, nous pouvons revenir chez nous et notre état d'esprit a complètement changé. Tout ce que nous voyons comme beau le matin nous paraît sombre, déprimant à la fin de la journée. Et quelquefois même, on n'attend pas la fin de la journée pour que ça se manifeste. D'un instant à l'autre, notre esprit change. Nous aimons telle situation dans l'instant, et si elle nous est resservie, peut-être quelques heures plus tard, nous l'apercevons d'une autre manière, avec un autre état d'esprit, emprunt lui-même de nos tendances, de nos émotions. Ça, c'est la caractéristique du cycle des existences. Et quand on parle de cycle des existences, ça veut dire toutes ces manifestations d'êtres qui ont à subir les affres de la naissance, du changement, du vieillissement, de la maladie et finalement de la mort, sans cesse répétées, parce que nous avons tout simplement créé en nous-mêmes les tendances qui favorise cela. Et comme on l'a vu déjà précédemment lors de l'enseignement dont nous avons parlé, par nature, cette manifestation des êtres, elle est souffrante. Oh, je sais bien ce que peuvent penser certains d'entre vous, mais oui, toutes les religions nous parlent de souffrance, nous en avons assez, nous ce que nous voulons c'est du bonheur, que du bonheur. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, les médias, la pub, les affiches, les revues, on nous dit, voilà, si vous consommez tel produit, c'est du bonheur assuré, la vie est merveilleuse, c'est formidable, mangez tel produit, et la vie ne sera que bonheur. Évidemment, oh, la publicité, vous savez, les psychologues qui gèrent cela, ils ont bien exploité justement les faiblesses des humains, et cette recherche infinie du bonheur que nous avons. Mais, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, cette recherche incessante du bonheur réel à travers les choses du monde ne nous procure que insatisfaction et souffrance. Nous ne sommes jamais satisfaits, tout simplement parce que dès l'instant où nous avons pu acquérir l'objet de notre convoitise, il nous en faut un autre, et encore un autre, et ça n'a jamais de cesse. Et cet objet que nous avons pu acquérir un jour, eh bien, on nous le retire, on nous le vole, il disparaît. Et nous souffrons, nous sommes déçus. Lorsque nous l'avons, nous déployons beaucoup d'énergie pour le préserver, pour le garder, pour l'entretenir, pour que personne ne nous le prenne. Et de ce fait, nous sommes toujours tendus sur le qui-vive, dans la peur, peur de perdre. Nous sommes toujours aussi dans la peur et la souffrance d'obtenir ce que nous ne souhaitons pas. Et nous sommes toujours déçus. Et le problème dans tout cela, c'est que nous confondons plaisir et bonheur. L'être humain confond plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est ce qui est lié à un événement extérieur, éphémère. Le bonheur, véritable, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, c'est un état qui est définitif, qui ne change pas, qui est complètement indestructible. Et nous, nous confondons donc plaisir et bonheur. Et nous souffrons forcément, parce qu'il y a une loi qui régit la manifestation, qui est la loi de l'impermanence. Tout change sans cesse. Et ce plaisir que nous avons pu acquérir, eh bien, se transforme peut-être en quelques jours, quelques heures, quelques mois, en déception et en souffrance. C'est la loi de ce monde. Et que l'on soit d'accord ou pas, il n'empêche que c'est quand même comme ça. Et le Bouddha explique, il dit, si vous voulez trouver réellement le bonheur intérieur, le bonheur définitif, ce bonheur-là, vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous-même, en changeant votre état d'esprit, parce que c'est votre perception du monde qui crée tous les problèmes, toutes les souffrances. Le monde n'est qu'une projection même de notre esprit. Et tous ces mondes dont il est question, ces mondes qui font partie du cycle des existences, ce sont des mondes où règne le changement d'une manière plus ou moins différente, plus ou moins courte, plus ou moins longue, avec des expériences ou de bonheur ou de souffrance, plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Mais tous, sans aucune exception, sont soumis aux mêmes paramètres que nous dans notre monde. Il existe donc une multitude de mondes dont le Bouddha a classifié en 6 catégories d'êtres. Ceci dit, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que 6 mondes, mais il y a 6 classes d'êtres à travers l'infinité de ces mondes. Et on va voir que finalement, ces 6 classes d'êtres, nous les possédons déjà en nous-mêmes. Nous les avons en nous, au niveau de nos tendances émotionnelles. Les détails, finalement, de cette classification donnée par le Bouddha, du plus haut catégorie, si on pouvait s'exprimer ainsi, de ces classes d'êtres qui peuplent le samsara, ou c'est des existences, c'est le monde des dieux. Alors, curieusement, les dieux, le fait de parler de ça, beaucoup de gens ont dit, oui, mais alors ça voudrait dire que le bouddhisme pense qu'il y a plusieurs dieux, donc le bouddhisme c'est monothéiste. Bien entendu, il ne s'agit pas de ça. Le bouddhisme n'est pas ni polythéiste ni monothéiste. Il dit simplement les choses telles qu'elles sont. Et quand on parle des dieux, c'est Dieu avec un minuscule, bien sûr, c'est pas Dieu avec un majuscule. Ce sont des êtres qui vivent dans d'autres sphères que nous ne voyons pas forcément, mais qui peuvent être perçus par des médiums ou des grands maîtres réalisés. Et ces êtres-là jouissent d'une certaine qualité de vie qui est bien plus enviable, bien sûr, que la nôtre, d'une certaine manière, car ils ne connaissent pas de souffrance au quotidien. La seule souffrance qu'ils peuvent expérimenter, c'est que leur état n'est pas durable. Il a une fin. Comme il a eu un début, il aura une fin. Un moment ou un autre. Ces dieux sont eux-mêmes... D'ailleurs, on retrouve ça dans toutes nos mythologies, hein, que ce soit la mythologie grecque, romaine, égyptienne, même les Gaulois, etc. Tous les ancêtres priaient aussi ces dieux d'une certaine manière, non pas comme on pourrait prier Dieu avec un D majuscule, mais comme ces êtres ayant plus de pouvoir que nous et pouvant nous aider dans notre vie quotidienne, nous apporter des bienfaits du fait de leur pouvoir beaucoup plus vaste que nous humains. Donc ils priaient déjà cela. On retrouve donc ça dans toute la mythologie passée, toutes les civilisations passées. Et ces dieux, il y a différentes catégories de dieux. Il y a des dieux du monde du désir, du monde de la forme et du monde sans forme. Et ils correspondent tous à un état d'esprit particulier que l'on va essayer de décrire, qu'on va reconnaître, puisque finalement, comme je disais tout à l'heure, cet état d'esprit, nous les avons en nous, nous les possédons déjà en nous. Ensuite, il existe une autre classification d'êtres que l'on appelle les demi-dieux ou les asuras. En sanskrit, c'est asura, les dieux, en sanskrit, c'est deva. Les asuras, c'est encore une catégorie de gens qui bénéficient peut-être beaucoup plus de bonheur que nous, humains, mais ils ont aussi de graves problèmes. Ils rencontrent des difficultés dans leur vie, dans leur expression de vie. Ensuite, il y a le monde humain, donc, que nous connaissons, puisque nous faisons partie de ce monde-là, Et dans ce monde humain, il existe différentes catégories aussi de monde humain. Nous en sommes une qui est particulière, mais il en existe d'autres, dans le monde humain, qui ont d'autres caractéristiques. C'est pareil que nous ne voyons pas, nous n'avons pas conscience, même tant que nous sommes dans cet état d'ignorance qui nous caractérise. Et là, il est dit que ces trois sortes de mondes-là peuplent le cycle des existences et sont considérés comme étant les trois mondes supérieurs du samsara, les trois mondes supérieurs du cycle des existences. Ensuite, viennent les trois mondes qui sont considérés comme inférieurs. C'est-à-dire que là, les choses se gâtent encore bien plus, puisque la souffrance est bien plus importante, plus conséquente, plus douloureuse que nous, ce que nous pouvons expérimenter. Le premier de ces mondes-là, qui vient juste en dessous du monde humain, c'est le monde des animaux. Vous le voyez, nous avons la chance de le voir, puisque nous le côtoyons, on pourrait dire, nous sommes à peu près sur la même longueur d'onde, du point de vue karmique, et là nous pouvons les voir. Et bien les animaux, c'est toute la faune qui nous entoure sur cette planète. Tous les animaux, jusqu'au plus petit insecte, hein, jusqu'à l'infinitésimale, comment on pourrait dire, le plus petit de tous les êtres, les microbes, etc. Tout cela, ça fait partie aussi de cette faune du monde animal. Ensuite, à un autre niveau inférieur encore, vient le monde de ce qu'on appelle les esprits avides, ou prêta en sanskrit. Ce sont des êtres qui souffrent énormément, qui vivent dans un dénuement le plus complet. Et on va voir que la caractéristique de ce monde-ci est aussi une émotion dominante, que nous pouvons reconnaître aussi en nous-mêmes, dans la vie quotidienne. Puis, au bout de cette chaîne, on pourrait dire au plus bas, eh bien, ce sont les enfers, les mondes des enfers, qui se partagent eux-mêmes en enfer chaud et enfer froid, avec une catégorie différente de mondes, à la fois d'enfer chaud et d'enfer froid, là où les êtres subissent de grandes souffrances. Beaucoup de traditions spirituelles, religieuses, ont décrit cela d'une certaine manière. Alors, je sais que pour nous, aborder ça, ça nous est toujours un petit peu douloureux. Oh, on a peut-être le sentiment de se dire « Oh, mais les cadeaux nous ont déjà raconté ça, on nous a fait peur avec tout ça, on ne veut plus entendre parler de ça, etc. » Mais et pourtant, si toutes les grandes traditions et les grands instructeurs en ont parlé, c'est qu'il y avait une raison, c'est que ça existait, bien entendu. Mais là, on peut aborder ça d'une autre façon, pas en tant que chose qui pourrait nous faire peur, mais peut-être quelque chose qui pourrait nous aider, une explication qui pourrait nous aider au quotidien, du point de vue du fonctionnement psychologique. Si nous partons finalement du plus haut de ces mondes, le monde des dieux, on dit qu'il y a 33 étages dans le monde des dieux. Les dieux les plus bas, évidemment, leur vie n'a rien à voir avec la nôtre. Ce sont des êtres qui ne connaissent absolument pas de souffrance dans leur vie. Leur vie est très longue. Ils vivent une vie de Dieu, finalement. À la fois dans la forme, ils ont un corps qui n'est pas encore fait de chair et de sang comme vous, mais un corps subtil de lumière. Mais évidemment, leur vie et la nôtre n'est pas comparable. Et plus on monte dans cette gradation du monde des dieux, plus les choses s'affinent d'une certaine manière. Plus les absorptions méditatives de l'esprit deviennent subtiles, jusqu'au plus haut de ces mondes des dieux, où ces êtres-là n'ont même pas de corps. Pas de corps, bien sûr, fait de chair et de sang comme nous, mais même pas de corps de lumière, ils ne sont que pur esprit. Et ces êtres-là sont absorbés dans un état de félicité qui pourrait presque, on pourrait dire, s'apparenter à l'état de Bouddha, d'une certaine manière. Ils sont enfermés dans leur bulle, où ils se sentent complètement à l'aise, et ils ont développé une espèce d'orgueil de connaissances spirituelles et d'absorption d'états méditatifs, isolés des choses, isolés des autres. Ils ont construit leur propre sphère, où ils se sentent complètement à l'aise, complètement paisibles, avec l'esprit extrêmement vaste. Et ils cultivent cet orgueil, un orgueil de cet état. La difficulté, bien entendu, de ces êtres-là, c'est qu'ils sont toujours dans un mouvement duel de l'esprit. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, finalement, entre l'état samsarique et l'état de ce monde des dieux, c'est que l'état samsarique, pardon, l'état de Bouddha et l'état de ce monde des dieux, c'est que dans l'état de Bouddha, il n'y a plus de notion de dualité, de sujet, d'objet et d'acte. Alors que dans cet état méditatif, il y a toujours ce sentiment de quelqu'un qui expérimente quelque chose. Et ce quelque chose est soit agréable, soit désagréable, ou soit neutre. Et c'est pour ça qu'il est dit que ce monde-là fait partie du cycle des existences et du samsara, parce qu'il y a toujours ce mouvement duel dans l'esprit. Le plus haut de ces mondes des dieux correspond à un état d'esprit qui est complètement méditatif. C'est-à-dire que la psychologie de ces mondes célestes se fonde sur un état d'absorption totale avec la sensation d'union avec le cosmos. Cependant, comme je disais, cet état est dépendant de quelque chose. C'est un état, c'est le moi finalement. Il y a toujours ce moi, cette notion d'un moi, d'un ego, qui se complaît dans une situation qui est agréable, et pas forcément dans un plaisir d'ordre matériel, à ce plus haut niveau du monde des dieux, mais plutôt dans la recherche d'un plaisir spirituel. Et plus on descend dans ces différentes catégories du monde des dieux, plus cet état s'épaissit, moins il est subtil. Dans celui du monde des dieux sans forme de l'absorption méditative, du point de vue du samsara, ces états sont vécus dans la conscience qu'il y a donc une expérience vécue et quelqu'un qui expérimente cette expérience. Voilà, donc ça c'est vraiment la problématique de ce monde-là. Et on dit que c'est une expérience de matérialisme spirituel qui est poussée à l'extrême. Et là, dans cet état-là, nous avons l'impression de transcender le plaisir et la douleur. Cependant, eh bien, il y a toujours quelque chose qui subsiste. Il subsiste tout de même une sensation très subtile et très complexe d'une certaine chose qui arrive. Il y a toujours la conscience du moi qui expérimente et quelque chose qui arrive. Donc, cet état est le monde des dieux sans forme. C'est le plus haut état du cycle des existences. L'espace et la conscience sont sans limite et la fixation qui est opérée se fait sur la vastitude même de l'expérience. Mais pour reprendre l'expression d'un grand maître bouddhiste tibétain, il dit: cette expérience-là est ni ceci, ni cela. Pas ni ceci et pas ni cela. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce qui est dit. S'il y a une espèce d'insatisfaction, finalement, qui s'instaure dans cet état d'esprit, qui est là. Et donc, plus nous descendons dans les degrés du monde des dieux, plus ces expériences deviennent donc moins complexes et plus grossières. Par conséquent, le premier état, le monde du plaisir spirituel, apporte un plaisir tellement extrême que ces êtres peuvent presque se permettre de se détendre. Cependant, cette détente, eh bien, ne va pas se produire du fait qu'il y a encore l'expérience de quelqu'un qui l'a fait. On est toujours dans un mouvement duel de l'esprit. La faiblesse de cet état est que l'intensité de l'expérience se fonde sur l'action d'acquérir d'autres expériences. Forcément, lorsqu'on est dans un mouvement duel de l'esprit, il y a toujours une insatisfaction, comme je disais tout à l'heure, comme ce que nous vivons nous-mêmes. Et cette insatisfaction va faire que nous cherchons d'autres sources de bonheur que celles que nous expérimentons. Alors, pour faire le parallèle avec nous humains et ce que nous vivons, peut-être peut-être ceux qui pratiquent déjà la méditation vont peut-être mieux comprendre ce que ça veut dire. Quand on essaye nous-mêmes de s'isoler du monde sur notre siège de méditation, de se fermer complètement et de fermer nos perceptions, d'essayer d'obtenir un état de paix intérieure uniquement pour nous-mêmes, fermé dans notre bulle, là, on peut dire que d'une certaine manière, nous cultivons cet état d'esprit du monde des dunes sans forme. C'est un obstacle dans la méditation, car si on ne se rend pas compte que finalement c'est toujours l'ego qui est enfermé sur lui-même avec une auréole spirituelle, nous risquons d'entretenir encore plus cet état. Et au moment où nous allons quitter ce monde, si nous partons avec cet état d'esprit-là, eh bien, dans la continuité de cette renaissance dont parle le Bouddha, nous nous manifesterons dans un monde qui sera le reflet même de notre état d'esprit. On va voir que pour tous les autres mondes, c'est pareil. C'est de la même manière. Ça se passe de la même manière. Plus nous descendons dans cette gradation des 33 mondes des mondes des dieux, plus ça s'épaissit, c'est-à-dire que les choses sont moins subtiles, un corps apparaît à un moment ou à un autre, bien plus subtil que l'autre, un corps de lumière, et plus on descend encore jusqu'au premier monde des dieux, ce sont des gens qui vivent complètement dans le désir, qui sont complètement dépendants du désir sur les choses extérieures, bien que leur vie soit beaucoup plus agréable que nous, parce qu'ils ne connaissent pas de souffrance. Bien que cet état, bien sûr, est un terme aussi, lui aussi, mais ils vivent constamment dans ces choses fastes, ces désirs, et on pourrait voir en parallèle l'histoire de la vie même du Bouddha lorsqu'il était dans son palais, avant même d'avoir réalisé l'éveil, lorsqu'il était près de son père, le roi Suddhodana, et dans son palais à vivre là, il jouissait, on pourrait dire, de tous ses bonheurs à l'image de ce monde des dieux. Très basique, où tous les plaisirs sont à leur portée, où ils ne rencontrent pas de souffrance majeure au cours de leur existence, si ce n'est que bien sûr la mort qui arrivera un jour ou l'autre, hein. Et ces dieux expérimentent cela, et on peut voir d'ailleurs dans notre vie quotidienne des gens dans notre monde humain qui fonctionnent comme ça, des gens pour qui tout leur sourit, qui ont un bon karma, qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, qui ont une bonne santé, qui ont une vie affective heureuse, et qui vivent dans leur monde, ou qui croient du moins que leur monde est agréable. On peut voir par exemple dans la jet set comment ça se passe, bien souvent c'est qu'une illusion, les gens croient que c'est comme ça, mais ce sont des gens qui vivent dans cette espèce de monde des dieux, hors de la réalité même de ce qu'est vraiment notre monde, en s'isolant de la souffrance, en voulant à tout prix empêcher le vieillissement de leur corps. Donc ils se font faire des liftings à longueur d'année, ils se font retendre la peau du visage, la peau du dos, la peau du reste, voilà, je ne vous donnerai pas de détails, et ils ont l'impression comme ça de ne pas vieillir et de vivre très longtemps, et ça va durer éternellement comme ça. Quand ils se regardent dans la glace, et bien une fois que le visage a été tiré par la chirurgie esthétique, ils ont toujours l'impression d'avoir 20 ou 30 ans. Évidemment, quand on regarde leurs mains, après, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose, et tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, là, ça a vieilli, mais ils sont dans cette espèce d'illusion du monde des dieux, en croyant que ce bonheur va durer là, éternellement. Évidemment, la réalité même de l'impermanence frappe. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ces gens peuvent tomber malades, peuvent souffrir aussi de la perte d'être cher. Et un jour, il leur faudra aussi eux-mêmes quitter ce monde lorsque ce sera le moment, lorsque ce sera l'heure. Si nous cultivons toute notre vie cet état d'esprit du monde des dieux, en se croyant supérieur aux autres, au moment de notre mort, eh bien, ces tendances-là seront bien imprimées en nous-mêmes, et nous risquons de renaître dans un de ces mondes-là, ces mondes complètement éphémères, factices, que sont donc le monde des dieux. Et bien entendu, la dominante même de ce monde des dieux, du point de vue émotionnel, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui les anime. Ils sont orgueilleux de leur état, orgueilleux de leur connaissance, orgueilleux des plaisirs qu'ils ont et que les autres n'ont pas. Ils développent cet état d'esprit-là. Regardons donc en nous-mêmes lorsque nous sommes dans cet état d'esprit-là. Je vous invite à faire cela, le Bouddha nous invite à faire cela, et d'éviter justement d'installer cet état d'orgueil. Parce que finalement, l'orgueil, eh bien, c'est de se croire un être exceptionnel, de se croire supérieur aux autres, et lorsqu'on se croit supérieur aux autres, eh bien, nous n'avons aucune compassion pour les êtres. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, qu'à notre propre plaisir, au détriment du plaisir des autres, en ignorant totalement la souffrance des autres êtres. Il est évident qu'avec un état tel d'esprit, complètement dénué de compassion, la libération de la souffrance ne peut pas être espérée, et encore moins l'état ultime d'éveil, l'état du Bouddha, le Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, l'état d'éveil ultime ne peut pas être espéré non plus. Donc regardons nous-mêmes, lorsque nous avons une attitude du monde des dieux, soit le monde des dieux, l'absorption méditative, lorsqu'on rejette le monde à l'extérieur, qu'on s'enferme dans notre bulle, en étant bien dans nos jouissances personnelles, ou alors dans tous ces fastes, toutes ces choses faciles qui nous entourent, en se croyant supérieurs aux autres. Regardons bien. Donc, il y a une insatisfaction dans le monde des dieux qui est là, du fait, comme j'ai dit, de cet état duel, de l'instant où il y a une relation sujet, objet et acte, il y a automatiquement une tension qui s'installe et des émotions, une insatisfaction. Alors, ce qui veut dire que, à partir de là, nous souhaitons expérimenter d'autres choses que cet état hyper raffiné. Et cette pulsion aboutit forcément à ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie à l'envie ou au mécontentement qui mène à leur tour au monde qui vient juste en dessous, le monde des dieux jaloux, des asuras. C'est un monde spécial, ça, ce monde des asuras. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir que nous, mais qui sont toujours en guerre. Parce que ce qui les anime eux-mêmes, c'est la jalousie. Et si on se réfère aux différents pays qui sont sur notre planète, on peut voir que chacun de nos continents, nos pays, correspondent à une émotion particulière. Lorsqu'on parle de l'orgueil, par exemple, on peut voir cette caractéristique bien présente chez les Américains, Américains du Nord. Lorsqu'on parle de la jalousie, c'est une dominante chez les Chinois. Ce sont des peuples qui fonctionnent beaucoup sur la jalousie, l'orgueil et la jalousie. Donc, il y a une régression qui s'opère depuis le monde des dieux à travers les autres différentes étapes et qu'on peut nous-mêmes en rencontrer dans notre vie quotidienne, à la fois en nous-mêmes mais chez les autres aussi. Le monde des asuras, de ces dieux jaloux, se caractérise par une grande vigueur qui fait presque contraste avec l'état d'absorption spirituelle du monde des dieux, l'état d'absorption de plaisir. C'est comme si quelqu'un s'était totalement isolé de sa civilisation durant une longue période, au milieu par exemple d'une île déserte, et qui avait soudainement la possibilité, je dirais pas la chance, mais plutôt la possibilité, de revenir à la ville la plus proche. La première idée qui viendrait automatiquement à l'esprit de cette personne, ça serait bien entendu de s'agiter à l'extrême, de se divertir, de se complaire dans une foule de choses, une foule d'activités. Et c'est de cette manière que se développe cet aspect énergétique de l'agitation qui règne dans le monde des dieux jaloux. Eh bien, regardons nous-mêmes dans notre vie quotidienne, parce que nous sommes emportés par cela. Qu'est-ce que c'est que la jalousie, finalement? On a vu l'orgueil, c'était se croire supérieur aux autres. La jalousie, du point de vue du message de Bouddha, c'est ne pas se réjouir du bonheur des autres. La jalousie. C'est-à-dire que quand quelqu'un obtient quelque chose que nous n'avons pas, quand quelqu'un obtient ne serait-ce qu'un bonheur, c'est pas forcément quelque chose de matériel, un bonheur que nous n'avons pas, nous sommes jaloux. Nous voulons obtenir, nous aussi, ce bonheur que possède l'autre, et surtout ne pas le partager. Et pour cela, nous allons même jusqu'à empêcher les autres d'être heureux, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux. jalousie, c'est un bien vilain défaut. C'est dit dans une phrase de La Fontaine, je crois. C'est un bien vilain défaut. Parce que lorsque nous voyons quelqu'un d'heureux, nous voulons détruire ce bonheur même que nous n'avons pas, le bonheur chez l'autre, au lieu de nous réjouir. Et forcément, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui va être très actif. Très actif, pourquoi ? Pour pouvoir obtenir un bonheur qui sera peut-être plus grand que son voisin. Comme il n'a pas le bonheur que possède son voisin, ou peut-être il l'a, mais il en veut encore plus, donc il va déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité. Peut-être pour nous, ça sera gagner de l'argent, avoir plus de pouvoir que celui qu'on jalouse en entreprise, c'est ça. On veut lui piquer sa place, donc on va tout faire pour pouvoir avoir sa place, jusqu'à peut-être le faire mettre à la porte, jusqu'à lui faire des embrouilles, le critiquer, être malveillant vis-à-vis de lui, le critiquer par rapport près d'autres gens qui ont plus de pouvoir, pour qu'un jour cette personne-là soit détrônée et que nous-mêmes nous puissions avoir sa place. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre bien dans l'activité quotidienne, en entreprise. Et la caractéristique donc de ces gens jaloux, c'est ça, c'est l'hyperactivité. Comme il me faut plus que l'autre, je veux obtenir quelque chose que l'autre a et que moi je n'ai pas, j'ai besoin de développer beaucoup, beaucoup d'énergie, de pousser tout le monde des coudes pour pouvoir obtenir ce que je veux. Regardons quand nous fonctionnons comme ça. Du point de vue de l'éveil, ce n'est pas juste. C'est graine de souffrance. C'est une des raisons pour lesquelles nous tournons aussi dans le cycle des existences, la jalousie. Donc, pour nous, il nous faut développer l'inverse de ça. Au contraire de la jalousie, c'est de se réjouir du bonheur des autres et tout faire pour que les autres soient heureux. Comme le remède à l'orgueil, c'est de cultiver l'humilité, d'être humble, de se contenter de ce que l'on a. Si nous continuons dans notre vie à entretenir cette tendance fondamentale qu'est la jalousie, au moment de notre mort, notre esprit, conscience, sera complètement possédé par ce mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement va nous amener à renaître dans un monde qui est le reflet de ce mode de fonctionnement, qui est, entre autres, donc là, dans ce cas, le monde des asuras. Cependant, cette expérience de grande vigueur, cet élan pour essayer de saisir, de s'accrocher aux situations externes, extérieures à nous, tout ça, ça ne suffit pas à un moment donné, parce qu'il y a toujours une insatisfaction, forcément, puisqu'on est toujours dans une situation duelle de moi, des autres et de relations avec les autres, sujet, objet et acte. Donc il nous faut plus que de l'agitation. Ce qu'on a envie nous-mêmes, c'est de choses beaucoup plus intimes. On a envie de quelque chose de plus proche de nous, de prendre ce quelque chose, de le goûter, de l'avaler, de le digérer. Il y a un besoin énorme d'intimité, parce que ces êtres qui sont toujours dans la bagarre et dans l'action, comme on dit, à un moment donné, ils ont besoin et envie de ce repos du guerrier. Ils ont envie de cette chose plus intime, d'arrêter de se battre. Nous voulons profiter, il est dit, de la situation et de l'intimité que permettent la possession, l'acte sexuel, la tendresse. Nous essayons de l'utiliser, de la mastiquer. Et ça, ça ouvre la porte au monde. Notre monde humain est fondé sur la relation, est fondé sur le contact et la communication. Mais en même temps, c'est plus que ça, c'est un monde qui est fondé sur le désir. Il se construit ce monde sur la passion et le désir. Et le sens ultime de la passion, c'est la communication. C'est créer des liens, créer des relations. Et ces relations, nous les voulons plus profondes, jusqu'à nous unir avec l'autre pour abolir cette dualité qui nous fait tant souffrir. Mais au lieu de chercher cette unité en nous-mêmes, qui est tout le sens de la voie spirituelle, nous la cherchons à l'extérieur, sur un support extérieur. Nous voulons l'autre. S'il nous plaît, nous voulons le posséder. Rien pour nous. Le goûter, le caresser, se mélanger à lui, ne faire plus qu'un avec lui, pénétrer l'autre. Voyons comment nous fonctionnons, je ne vais pas vous faire de dessin. Tu m'appartiens, je suis à toi, nous sommes plus qu'un, nous formons un couple, pour toujours, mais un couple où il y aurait une pensée commune, une direction commune, un amour commun, unique, et pour toujours. Nous sommes passionnés. Nous sommes là uniquement que pour savourer l'autre et posséder l'autre. C'est la caractéristique du monde humain. Mais voyons comment nous fonctionnons. Nous sommes dans un monde de désir et d'attachement. Ce qui nous intéresse, nous voulons le posséder et ne pas le partager. Ce qui ne nous intéresse pas, nous le rejetons. Forcément, quand il y a du désir et de l'attachement, il y a l'autre face, qui est la colère et la haine. Et d'ailleurs, on peut bien voir comment ça se passe dans notre vie quotidienne. On peut rencontrer quelqu'un, pas forcément pour une histoire amoureuse, ça peut être quelqu'un avec qui on est ami, où on sent une relation qui s'installe, une connexion, les choses vont bien au départ, tout se passe très bien, et puis avec le temps, les choses changent. Cette personne-là, nous ne sommes plus toujours d'accord avec elle, et puis un jour, peut-être, elle deviendra notre ennemi, notre pire ennemi. Et nous serons capables de nous détester avec autant de passion que nous avons pu nous aimer dès le départ. Ça, c'est le monde humain, fondé sur le désir, sur l'attachement, sur l'union, la possession de l'autre, ou le rejet de ce qui ne nous plaît pas. Travaillons sur cette tendance, parce qu'elle est néfaste au moment de notre mort. Libérons-nous de cette tendance majeure du monde humain. Mais voilà, c'est toujours pas suffisant. Nous sommes emportés par ce désir, cette passion que nous voulons expérimenter de manière plus abrupte, plus grossière. Ben oui, nous voulons connaître des expériences beaucoup plus réelles, plus évidentes, pour vivre nos émotions. Puis en même temps, il y a un gros problème, c'est que nous n'avons plus envie d'entretenir des relations. Ben oui, regardons. Si je rencontre par exemple une personne qui m'intéresse, une jolie femme, une jolie fille, qui m'intéresse, je veux me l'approprier, qu'elle soit mienne, mais je ne peux pas le faire comme ça. Je suis obligé de négocier. Et c'est valable dans les deux sens, bien sûr. On ne peut pas obtenir les choses avec les êtres comme ça parce que nous l'avons désiré. Il faut négocier. Et ça, c'est lassant. Notre désir fait que nous voulons la chose tout de suite, sans négocier, sans discuter, sans demander l'avis de l'autre. Nous voulons prendre l'autre. L'autre ou l'objet. L'objet de notre convoitise. Là, ça se gâte. Ça se gâte sérieusement. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des voleurs, des violeurs, qui prennent la vie des autres, des assassins, puisque je ne peux pas t'avoir à moi, donc je te prendrai ta vie pour que tu sois à moi. On peut en arriver là. Si on entretient cette tendance. Le monde humain, cette lassitude, elle est sur la négociation. Si je vois quelque chose de beau dans la vitrine et que je n'ai pas l'argent pour me l'acheter, au lieu de me dire ben, « je vais peut-être travailler, gagner de l'argent pour l'avoir », eh bien peut-être que je vais aller jusqu'au vol pour la posséder tout de suite. Parce que le reste pour moi c'est trop compliqué. gagner de l'argent, c'est trouver du travail, c'est travailler, travailler c'est souffrant, je veux la chose tout de suite, donc je me branle et je me sers. Regardons dans notre quotidien et nous-mêmes, lorsque nous sommes soumis à cette tendance, qu'elle s'élève en nous, ne la laissons pas s'installer, soyons vigilants et transformons ça, purifions ça. Parce que si nous mourons avec une tendance pareille, c'est pareil, ça ne sera pas la libération de la souffrance, ça va être quelque chose de plus compliqué pour nous après. Donc, il y a toujours dans ce monde humain une espèce de lassitude d'être toujours en contact avec l'expérience de plaisir. Nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons n'implique que cela, à un moment donné. Donc nous voulons quelque chose de plus simple, où il n'y a plus de négociation, quelque chose de plus direct, un moyen plus instinctif d'opérer, d'une certaine manière, hein, qui nous permettrait de ne plus attendre des scénarios rattachés à la passion et au désir. Et c'est alors que nous en sommes réduits au monde animal. Eh bien oui, regardons les humains qui fonctionnent, qui en arrivent à se comporter comme des animaux. L'animal, lui, il ne se pose pas de questions. Il suit ses instincts. Il a faim, il tue pour manger. Ben voyons. Voyons les humains qui se comportent comme des animaux chez nous. Qui ne font plus la différence entre le bien et le mal, et qui suivent uniquement leurs instincts. Sans aucune conscience de l'autre, de ce que vit l'autre, de ce qu'est l'autre, ou de ce qu'est la chose ou l'objet. Je veux obtenir ça, je suis mon instinct, sans aucune réflexion, sans aucune sagesse derrière. Je me sers. Le monde animal, dans ce cas, nous mettons tout en pratique de manière instinctive, au lieu de recourir à des frustrations émotives ou intellectuelles pour obtenir ou posséder quelque chose. Nous ne supportons donc plus la négociation, on l'a vu déjà, hein. Nous voulons tout, tout de suite, sans aucun obstacle. C'est ça, le monde animal. Cet état d'esprit animal qui pousse à agir sur le coup de l'impulsion, on va voir que ça, c'est pas assez grossier. Ben oui! Parce que même dans le monde animal, il faut encore défendre sa gamelle. Il faut négocier avec ceux qui appartiennent peut-être au même groupe d'animaux que nous, ou ceux qui veulent pénétrer dans notre groupe. Il y a encore une négociation. Parce que même le mâle, s'il veut posséder une femelle animale, il doit encore quand même, malgré tout, négocier. Parce que si elle n'est pas d'accord, ça ne se passera pas. Et là, ça ne va plus. On veut quelque chose encore de plus direct. Beaucoup plus direct que ça. Nous commençons à sentir qu'avec cette mentalité animale, notre état d'esprit renferme une faiblesse considérable. Il nous faut encore, comme j'ai dit, défendre notre territoire, défendre notre gamelle. Nous ne voulons rien donner, mais nous voulons prendre davantage. C'est la faiblesse. Et jusqu'à maintenant, toute notre expérience du monde des dieux jusqu'au monde animal s'est toujours déroulée sur le mode de l'échange. Il y a toujours quand même eu un échange, d'une certaine manière. Il y a toujours eu ce sentiment plus ou moins précis d'équilibre. Mais ce mouvement duel d'échange, de va-et-vient, entre deux situations, même lorsque nous n'en sommes pas conscients, est trop épuisant. C'est alors que nous nous mettons en quête d'une forme extrêmement grossière de maintien de soi-même, c'est-à-dire le monde des esprits avides, ou le monde des prétables, qu'on appelle aussi le monde des esprits affamés, des fantômes affamés, etc. Il y a plusieurs noms. Nous ne voulons renoncer à rien, tout ce que nous voulons, c'est prendre. Comme nous refusons de donner quoi que ce soit, et que nous faisons que prendre, la mentalité qui règne dans ce monde est une grande avidité. Moi, j'ai rencontré des êtres humains qui fonctionnaient comme ça. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Rien pour les autres. Je ne veux rien partager avec les autres. J'accumule, j'entasse ce que j'ai besoin, ce que je n'ai pas besoin. Dans ce monde-là, nous voulons renoncer à rien, tout ce que nous voulons, c'est donc prendre, et comme nous refusons de donner quoi que ce soit, nous sommes toujours dans la pauvreté, bien entendu. Nous voulons tous en donner, et plus nous recevons, plus nous voulons encore. Nous ne voulons rien donner ni partager, aucune expérience. Donc la faim et la soif sont tellement énormes qu'il y a une telle fixation sur le moi, à ce moment-là, qu'il n'y a aucun espace pour établir une relation avec le monde extérieur. Le monde des esprits avides, il est dit, c'est donc le summum de la pauvreté. Comme il n'y a pas d'échange, comme on ne veut pas donner, on ne reçoit pas. Regardons aussi dans notre fonctionnement quotidien les gens qui ne sont pas généreux à l'extrême, qui veulent tout pour eux. Ils ne reçoivent jamais rien, ces gens-là. Et bien souvent, ils meurent dans la plus grande solitude, la plus grande détresse. Parce qu'il y a une loi qui régit notre univers. C'est que si tu veux mettre de la soupe dans ton assiette, il faut déjà que ton assiette soit vide. Eh bien oui. Pour recevoir dans la main, il faut qu'il n'y ait rien dans la main. S'il y a quelque chose, on ne peut pas recevoir. Si on bloque nous-mêmes ces énergies, ce que nous avons nous-mêmes, sans avoir cette capacité à pouvoir échanger, à pouvoir nous relationner avec les autres, à donner aux autres, nous ne recevons rien. C'est une loi, c'est comme ça. Ce n'est pas une loi bouddhiste, c'est une loi universelle. Donc, dans ce cas, ce sentiment de pauvreté, forcément, ça nous mène à autre chose. Regardez dans notre monde. Plus on est pauvre, moins on reçoit de choses. Plus on est pauvre, plus ça nous mène vers l'agression. L'agression. Eh bien, l'agression. Non seulement nous refusons de donner quoi que ce soit, mais nous désirons même détruire ce qui rappelle l'action de donner. Ça, c'est poussé à l'extrême. Et c'est alors l'enfer. Enfer, c'est être enfermé. Enfermé dans du fer, ça symbolise justement cet aspect solide. C'est une paranoïa. Nous sommes enfermés sur nous-mêmes. C'est ça, l'enfer, c'est être enfermé. L'enfer, ou ce qu'on appelle encore Naraka en sanskrit, c'est un état extrêmement puissant et instantané d'agression et de haine. À ce stade, il n'existe plus aucun espace pour autre chose que pour cela. Il y a des êtres aussi dans notre monde humain qui fonctionnent de cette manière, qui sont arrivés à une telle parano intérieure. C'est une grande souffrance, bien entendu. Ils sont enfermés, tellement enfermés, que leur vie n'est plus qu'agression. Agression intérieure, tout ce qui se perçoit du monde extérieur ne reflète que l'agression. Et si la personne meurt avec cette tendance poussée à l'extrême, c'est tout à l'esprit, elle renaîtra dans un monde qui sera le reflet de cette tendance, qui est appelé le monde des enfers. Expliqué d'une manière simple, bien sûr, comme ça. Mais ces mondes se matérialisent tout à fait comme le nôtre. Nous sommes dans la paranoïa du monde humain. Ce monde est une projection de notre esprit et le reflet de nos tendances basées sur le désir attachement. Et nous voyons, nous percevons ce monde comme étant le reflet nous-mêmes de nos désirs. Mais ça n'a pas plus d'existence du point de vue de l'enseignement du Bouddha. qu'un rêve la nuit. Regardez la nuit, quand on rêve, on est propulsé dans un certain monde, avec un certain état d'esprit, il nous arrive des expériences, on rencontre des gens, des difficultés, des choses agréables, des agréables. Et quand on se réveille le matin, on se rend compte que c'était qu'un rêve, que ce monde n'avait pas d'existence. Oh, c'est pareil. Nos expériences de vie, de manifestation, ne sont que des reflets, des projections de notre esprit. Ce monde humain est une projection de l'esprit. Lorsque l'on meurt, à la fin de notre vie, nous quittons cette projection pour une autre. C'est comme si, par exemple, nous étions dans une salle de cinéma, nous assistions à un film, une histoire qui est projetée sur l'écran. On est identifié à cette histoire, et à la fin du film, tout s'arrête, on change de salle de cinéma et on voit un autre film. La succession de vie et de mort, c'est une succession d'hallucinations, de paranoïa, de projections de l'esprit. Ces projections sont le reflet de notre état mental, de notre état karmique. Si nous développons des états sensariques en nous-mêmes, relatifs à toutes ces émotions dont on a parlé, hein, la colère, l'orgueil, l'ignorance, la jalousie, le désir, etc. Si nous développons cela dans notre vie, eh bien, la paranoïa qui viendra ensuite sera le reflet de ce que nous aurons installé en nous-mêmes, ce que nous aurons entretenu en nous-mêmes. Et ça, ça ne sera pas libérateur, bien sûr, ça sera générateur toujours plus de souffrance. Et le but d'une voie spirituelle, c'est de travailler sur soi dans cette vie pour éviter d'installer en nous ces tendances dominantes, de les libérer, de les purifier en état de sagesse pour pouvoir nous libérer du cycle des existences et devenir un Bouddha. Parce qu'un Bouddha, rappelons-nous, Bouddha ça veut dire l'éveillé. C'est pas, on parle pas du Bouddha. Le Bouddha Shakyamuni, c'était l'éveillé qui s'appelait Shakyamuni. Et quand on parle du Bouddha, c'est pas un être, c'est celui qui est éveillé. Et celui qui est éveillé, ça veut dire quoi? C'est celui qui est éveillé du sommeil et de l'ignorance. Il est éveillé de cette paranoïa sansarique. C'est ça un Bouddha. Donc pour pouvoir sortir de cet état paranoïaque dans lequel nous sommes, on aurait pu faire plus simple. Vous voyez comme l'être est compliqué. Donc, si nous nous dégageons complètement de ces tendances qui sont génératrices, bien sûr, de renaissance et de mort dans ce monde sansarique, nous sommes un éveillé. Et l'éveillé, c'est celui qui a compris que tout ça n'était qu'un rêve de l'esprit, qu'était qu'une paranoïa de l'esprit. Et lui, il en est dégagé. Donc, tout le travail d'une voie spirituelle, en relation avec l'explication que je vous ai donnée d'une manière assez psychologique de ces six mondes, tout le travail que nous avons à faire, c'est de sortir de ça, de cultiver les tendances de sagesse et de pureté intérieure qui vont nous permettre de sortir de nos paranoïas. Est-ce que vous avez un peu compris ce que j'ai dit? Mais je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, parce que pour moi ça paraît évident, mais je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Je vais vous laisser la parole, bien sûr. On peut peut-être avoir un micro qui peut se balader, là, supplémentaire. Là, okay. Il y a une dame là-bas qui souhaiterait poser une question.
C'est la première fois que je viens. Je voudrais savoir ce que vous appelez paranoïa, parce que quand vous parlez de paranoïa, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Paranoïa, c'est une fixation sur le moi, qui fait que l'on crée notre propre monde, qui est le reflet de notre moi, du point de vue bouddhiste. Hein. On ne parle pas de la psychologie traditionnelle occidentale. On parle du point de vue de l'Abhidharma, c'est-à-dire l'enseignement qu'a donné le Bouddha sur la psychologie et de l'aspect mystique et le profond de la psychologie des mondes. Voilà. Madame derrière, je pense que vous voulez poser une question.
Moi-même, je viens ici pour la première fois. Donc, les enseignements formulés aujourd'hui.
J'ai pas l'impression qu'il marche le micro, madame.
Voilà. J'aimerais savoir, je pense pas que tout ce que vous dites, c'est acquis tout de suite. Je pense que c'est sur un long terme, un long travail sur soi quand même.
Tout à fait. Oui. Bon, pour ça que bon, moi, ce que je donne là, d'abord, ça fait partie d'un cycle, hein, ça a été commencé depuis un an, donc c'est la continuité, donc il y a eu autre chose avant. Et en même temps, bien entendu, d'abord on dit les choses, mais après il faut les approfondir, et c'est tout le sens justement des enseignements. Après il y a la réflexion sur les enseignements, il y a l'approfondissement. Et pour comprendre quelque chose, c'est comme quand on va en fac, hein, on ne sait pas à qui tout de suite, il faut étudier, il faut approfondir. Donc évidemment, il existe de nombreux ouvrages sur le bouddhisme et sur différentes facettes, hein, je parlais du joyau tout à l'heure, et qui sont disponibles, et en même temps d'écouter justement les transmissions orales données par les guides spirituels, c'est ce qui va permettre, avec la bénédiction qui est inhérente, parce que justement nous sommes dans le spirituel, là, on n'est pas dans l'intellect. Et là, il y a quelque chose qui va donc s'opérer à l'intérieur de nous, il y a une maturation, et ce qui fait que ce que peut-être on ne comprenait pas un an avant, eh bien, ça va être un peu plus clair un an après. Ouais, donc c'est, en effet, il y a toute une progression. Évidemment, on peut le clarifier comme ça, vous entendez ça, c'est un autre monde, mais c'est sûr, je le conçois.
Merci. Bon, bon, je suis un ami des bouddhistes. Bon, déjà une méthode, c'est un peu un jeu de mots. D'entrée, vous avez parlé du bonheur, c'est-à-dire un problème, et un jeu de mots. Déjà, dans le bonheur, il y a déjà bobo. Hein, le bobo, le bobo du bonheur. Bon, ça, c'est amusant. Par contre, j'aurais une question à vous poser qui est beaucoup plus délicate, beaucoup plus sensible. Que pour que les bouddhistes pensent des enfants handicapés qui naissent handicapés ou qui viennent handicapés, etc. C'est un grand problème, ça, bien sûr. Merci.
Bon, déjà, c'est un sujet que j'ai abordé donc la dernière fois, lorsque je suis venu il y a un mois. D'où l'intérêt, justement, de suivre cette progression. Mais enfin, on peut encore en parler si vous voulez. Et ça concerne la loi de causalité, ce qu'on appelle la loi du karma. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions finalement sur la vie. Pourquoi moi je suis ça et que je ne suis pas autre chose? Pourquoi que lui il est ce que moi je voudrais être, que je n'ai pas pu être, ou qu'il est peut-être ce que j'aurais jamais voulu être? Pourquoi y a-t-il toutes ces différences entre nous? Certains ont des facilités, d'autres ont des handicaps. Certains sont blonds, bruns, aux yeux bleus, sont grands, ou petits, ou gros, ou maigres, avec telle expérience de vie, telle naissance dans tel pays, dans telle famille, etc. etc., etc. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais d'où ça vient, cette différence? Qui a créé ça? Alors, on pourrait se dire, oh, bah, c'est peut-être Dieu qui a décidé que telle personne sera ci ou sera ça. Il est évident que du point de vue bouddhiste, c'est irrecevable, cette assertion-là. Le Bouddha a dit tout simplement, c'est nous qui avons créé les causes et conditions de ce que nous sommes actuellement. C'est donc la loi de causalité, la loi de cause à effet, ou la loi de karma. Karma, ça veut dire action en sanskrit. Action. Mais ça veut dire bien plus qu'action, puisque lorsqu'il y a action, il y a une réaction. Donc il y a toujours une cause, et chaque cause a toujours un effet, hein, ou plusieurs effets. Nous sommes le résultat, finalement, de toute notre histoire, à la fois de cette vie, mais une histoire qui plonge bien plus loin ses racines dans la multitude de vies passées. Et durant ces vies successives, nous avons accompli toutes sortes d'actes, à la fois positifs, d'autres négatifs, d'autres plus ou moins neutres. Et c'est ce qui fait nos tendances actuelles, ces tendances nous les avons entretenues, pour certaines compliquées pour d'autres, simplifiées pour d'autres encore, et ce que nous sommes à l'heure actuelle, là, ici, maintenant, c'est le résultat de toute cette histoire. Alors vous posez la question des handicapés, je sais que c'est délicat à aborder, c'est toujours une question qu'on pose, et les gens n'aiment pas entendre ça, entendre dire que le handicapé il a créé une cause. Son état dans les vies passées. Je sais que si vous êtes parent, vous avez un enfant handicapé, d'entendre ça, je conçois que ça peut être irrecevable. Cependant, le Bouddha l'a enseigné comme ça. On n'est pas obligé d'y croire. Mais il l'a enseigné comme ça. Et on peut le vérifier à travers la pratique, évidemment. Parce que tout ce que le Bouddha a enseigné, c'est vérifiable. Pas matériellement, pas par la technologie ou la science, mais du point de vue spirituel, expérience intérieure, c'est vérifiable. Donc voilà, c'est lié à nos tendances engendrées dans les vies passées. Et c'est pareil, ce qui caractérise tous ces mondes-là, les difficultés, les facilités qu'on rencontre dans ces différents mondes et qu'exprimés-là, c'est nous qui les avons créés. C'est nous qui avons mis les barrières, mais c'est nous seuls qui pouvons les retirer. Ça, c'est la quatrième des nobles vérités enseignées par le Bouddha. Donc tout est entre nos mains. Et moi, ce que je trouve qui est réjouissant, si vous voulez, là-dedans, c'est que ça nous rend responsables et adultes. Responsables de nos actes, responsables de notre vie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. Parce que si je sais, par exemple, imaginons, je donne toujours cet exemple-là, que dans cette salle, voilà, je me trouve au fond de la salle, j'écoute le lama qui parle, et puis je vois une dame à côté qui a laissé son sac ouvert, avec son porte-monnaie qui dépasse, avec des billets, des euros qui dépassent, et je me dis, bah, tiens, si elle ne me voit pas, je plonge la main dans le sac, tout le monde est absorbé à écouter le lama, je vais lui piquer son argent, et puis qui pourra savoir qui a fait ça, après, quand tout le monde sera parti, personne ne saura. Voilà. Ni vu, pas vu, pas pris, hein, ni vu, ni connu, tout va bien. Mais si je connais la loi du karma, si je sais que ce que j'ai fait là, j'aurai à en récolter les fruits, ou dans cette vie, ou dans une vie future sous forme de souffrance, si je sais ça, je ne ferai pas. Donc je n'aurai pas besoin à ce moment-là d'avoir un gendarme derrière moi pour me dire ce qu'il faut faire ou pas faire, je deviens mon propre gendarme. Donc c'est-à-dire que je suis 100% responsable de ma vie. Ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je ne supporterai pas d'entendre que quelqu'un, quelque part, ou dans les cieux ou sur cette terre, soit responsable de ma vie. Et qu'il décide si je dois être heureux ou malheureux selon son bon vouloir. Ça, c'est le genre de truc que moi, je ne supporte pas. Moi, cette loi de la causalité me convient bien. Vous pouvez prendre le micro, madame, s'il vous plaît.
Je suis en train de dire que ce que vous nous dites, ça ressemble étrangement à la peur, et que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et puis, une autre chose qui m'a... Vous nous avez rappelé nos devoirs de ne pas faire, mais le devoir de réaction quand quelqu'un vous emmerde, on va prendre une page de ses frères, à chaque fois qu'on... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On a aussi le droit, dans la vie, de s'affirmer, de dire non. Et là, quand vous dites... il me semble que ne pas prendre à l'autre, c'est le respect de l'autre. Oui, je l'entends, mais le fait d'avoir peur d'une autre vie, pour moi, le mot peur, n'appartient pas au langage de la spiritualité.
Je comprends bien votre trouble, madame. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est tout à fait votre droit. Vous avez tout à fait le droit. Lorsqu'il y a de la peur, c'est qu'il y a du désir derrière. C'est enseigné par le Bouddha. Apaise ton désir et la peur s'en ira.
Dans votre exemple, c'est vous-même qui dites au contraire. Dans votre exemple, vous nous dites que si...
Prenez le micro, s'il vous plaît, madame, parce que c'est enregistré. Voilà.
Il me semble que vous dites le contraire, parce que quand vous nous dites que s'il y a un portefeuille par terre, je ne le prends pas, parce que il me semble que si je ne le prends pas, c'est que je me respecte et je respecte le bien de l'autre, donc je ne le prends pas, donc je suis dans la raison. Alors si vous me dites, si je me dis, oh là là, je ne prends pas mauvaise vie, je ne sais pas dans quelle vie je vais revenir, pour moi c'est de la peur. Et la peur, c'est la culpabilité. Et je ne suis pas d'accord.
Oui. On peut en effet avoir peur de la souffrance. Moi, principalement, personnellement, s'il vous plaît, si vous parlez tous en même temps, on ne va pas se retrouver. Moi, la souffrance, ça ne me plaît pas, madame. Et j'ai peur de la souffrance. Peut-être que vous, vous n'en avez pas peur, mais moi, j'ai peur de la souffrance. J'ai peur du malheur. J'ai peur des guerres. J'ai peur des maladies. J'ai peur de la mort. Et ça, ça me booste dans la vie. Et ce n'est pas une peur qui est névrotique. C'est simplement une peur consciente. Consciente de ce qui est nécessaire de faire pour sortir de là. Ce n'est pas une obsession chez moi, vous savez. Je suis très libre à l'intérieur. Mais j'aime pas la souffrance et j'aime surtout pas voir les autres souffrir. Et je fais en sorte que les causes de cette souffrance ne soient pas engendrées, mais plutôt à l'inverse, que soient engendrées les causes du bonheur. Et c'est vrai qu'il y a une certaine peur, mais cette peur, elle peut avoir différents aspects. Elle peut être génératrice de souffrance ou génératrice de névrose. Si c'est l'ego qui saisit la peur, ça génère la névrose. Si c'est la sagesse qui utilise cette peur, c'est l'éveil et la libération. Donc vous voyez, il y a quand même une marge entre les deux. Les choses ne sont pas si tranchées que cela. Je crois que le moteur, finalement, d'une recherche spirituelle, c'est déjà d'améliorer sa vie, de savoir qu'on peut peut-être toucher cette bonté intérieure qui est en nous déjà, puisqu'il est dit que la nature de Bouddha est en nous, donc on n'a pas à la chercher à l'extérieur, et que la peur en même temps, la souffrance peut être en même temps un excellent moteur, puisque ce qu'on ne peut pas comprendre par la sagesse, malheureusement, on vient à comprendre ça par la souffrance, par les épreuves. Et moi, je n'aime pas souffrir. Il y a peut-être des gens maso qui aiment ça, mais personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui souhaitait ne pas être heureux et qui souhaitait continuer à souffrir. Donc à partir de là, certes, il y a cette peur, mais cette peur, elle n'est pas névrotique. C'est là toute la différence. Moi, je sais que si je mets ma main sur le feu, ça brûle. Et je le sais, donc je ne mettrai pas ma main. Et ce n'est pas pour ça que j'en fais une obsession. Hein. Vous comprenez ?
Oui, mais pourquoi pourquoi c'est pas la raison ? J'ai pas dit quoi. Alors, pour vous, la sagesse, c'est la raison ? Parce qu'il y a aussi un mot.
Non, madame, la sagesse, ce n'est pas la raison. La sagesse, c'est la sagesse. La raison, c'est intellectuel. La sagesse, c'est le cœur qui parle et pas l'intellect. C'est là toute la différence entre une philosophie et une voie spirituelle. Ne confondez pas les deux, madame. Vous êtes dans un domaine spirituel. Voilà. Est-ce qu'on, je vais vous dire, voilà. Le chemin le plus douloureux, le plus difficile à faire pour un être humain, c'est les 30 cm qui séparent ça de ça. Et c'est ce que nous propose l'enseignement du Bouddha. D'arrêter de conceptualiser et de passer à la bonté fondamentale, à la sagesse qui est là. Et la pratique spirituelle nous invite à cela. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est pour inciter cela. Évidemment, on a besoin de l'intellect. L'intellect n'est pas à renier, mais l'intellect n'est pas une finalité, n'est qu'un moyen d'évoluer.
Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de notre intelligence pour comprendre le Bouddha, enfin, l'enseignement du Bouddha. Ça ne passe pas par l'intelligence.
On a besoin de la réflexion. On a besoin de la réflexion, mais la réflexion ne doit demeurer qu'un moyen qui va nous permettre de toucher cette sagesse et n'est pas une finalité. Parce qu'il y a un très beau proverbe, et très dur d'ailleurs, que les Tibétains se plaisent à dire: sur le lit de mort d'un érudit gît le cadavre d'un être ordinaire. Sur le lit de mort d'un érudit gît le cadavre d'un être ordinaire.
Oui, justement, à partir du moment où on a compris, enfin, où on vit dans cette philosophie, ou plutôt dans cet amour, ce qui est très dur, c'est justement, on est souvent, agressé par des gens qui ne comprennent pas et qui vous disent: oh, toi, t'es trop bonne, t'es trop ceci, t'es trop cela, et on passe vraiment pour des... Bon, moi, je sais que je m'en fous, hein, je vais vous dire, mais je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un... Non, c'est vrai. Bon, je sais qu'on a chacun notre cheminement, on a chacun notre évolution, mais c'est vrai que c'est très dur, surtout par rapport aux gens qu'on aime le plus, avec qui on vit, et qui ne comprennent pas ce cheminement. Ou tout au moins, qui ne comprennent pas notre façon de voir les choses.
C'est normal, madame. Je vais vous dire pourquoi. La sagesse parle d'elle-même. C'est tout. Réalisez-la en vous-même, et elle est incontestable. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous parlez de la sagesse, elle est contestable. Quand vous êtes le reflet vous-même de cette sagesse, elle l'est, tout simplement. Donc, il y a une différence entre vouloir être bon et être bon. Quelqu'un qui est bon, il est bon. Il ne se pose pas la question, il est bon. Voilà. Donc il y a l'histoire d'ego entre les deux encore. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Et la pratique spirituelle nous amène justement à éradiquer progressivement cette conscience du moi séparé des autres. Parce que c'est ça finalement, nous sommes tous formés d'un territoire psychologique. Il est le mien, c'est moi, voilà, c'est mon territoire, je suis identifié à ce territoire, c'est mon nom, c'est mon prénom, c'est ma famille, ma date de naissance, mon pays, mes idées, mes concepts, et je suis identifié à ce territoire. Mais quand je rencontre quelqu'un d'autre à l'extérieur, je rencontre un autre territoire, qui est dans la même parano que nous, que moi. Chacun défend son territoire. Et quand deux territoires se rencontrent, bien souvent, ils sont en opposition. Parce que chacun est pris dans sa propre parano. Et tout le travail spirituel, c'est d'apprendre à s'ouvrir, à ouvrir notre territoire. Parce que finalement, notre territoire n'est fait que de concepts. Et comme on sait très bien, tous les concepts sont discutables. Mais nous, nous les solidifions, nous les prenons pour définitifs. Cette identification à nous-mêmes, on la prend pour définitive. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un veut la remettre en question, ou pénètre, essaye de pénétrer notre territoire, nous ne sommes pas contents. Mais nous, nous faisons pareil avec les autres. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu vois en moi que je suis bon, que je fais des efforts pour être bon ou bonne. Je veux. Mais c'est toujours moi, je qui veux. Oui.
Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Oui, mais...
C'est pas grave.
Mais allez-y, rajoutez des points.
Non, je veux dire que...
Prenez le micro.
Non, c'est parce que je sais que quand on commence à être serein, à être bien et tout, on aimerait que tous les gens qu'on aime puissent ressentir cette sérénité ou ce bonheur.
Ouais.
Alors voilà, alors là, c'est peut-être mon ego qui...
Voilà.
Je voudrais qu'ils puissent ressentir les choses comme moi. Bon, là, voilà. Donc,
vous savez pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pourquoi?
J'ai du boulot. Hein.
C'est parce qu'il n'y a pas de sagesse derrière. Il y a toujours la notion d'un moi qui veut. Je veux que tu sois heureux. J'aimerais tellement que tu sois heureux. Mais fous-moi la paix, j'ai pas envie d'être heureux. Pourquoi tu veux absolument que je sois heureux? On viole le territoire de l'autre.
Oui, non, mais ça, je l'ai compris ça, qu'on ne veut pas... mais c'est le fait que quand on aime, on voudrait que la personne... on ne peut pas, bon, c'est vrai, mais ça, je l'ai compris, qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir tout au moins ressentir les mêmes choses. Mais je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que, par contre, c'est quand on vous agresse après, à cause de ça, justement.
Arrêtez, et on ne vous agressera plus. Laissez de l'espace aux autres pour qu'ils vivent leur vie.
Non, mais c'est bon, j'ai compris.
Et soyez un exemple.
J'ai compris.
Il suffit d'être un exemple et cet exemple parle de lui-même. Sans micro, ça ne marche pas. Voilà.
C'était pour amener sur un peu moulin. C'est sûrement pour ça que tous les grands sages, hommes ou femmes, rayonnent, naturellement.
Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir, de vouloir, d'avoir, il s'agit d'être. Et c'est ce que nous propose la voie bouddhiste, à travers tous les enseignements qui sont donnés, nous inciter à la réflexion sur ces enseignements, et surtout, après, à la mise en pratique. Parce que s'il n'y a pas de mise en pratique derrière, rien ne change, bien entendu. C'est une évidence. C'est comme si, par exemple, d'ici, de Lyon, je veux me rendre à Paris. Eh bien, d'abord, je vais prendre une carte routière pour savoir quelle route il faut prendre pour aller à Paris. Ça, c'est l'aspect d'étude. Écoute des enseignements et réflexion là-dessus. Donc, je vais étudier la carte, voilà, il faut que je prenne telle route, telle nationale, je vais passer par telle ville, je pense déjeuner à midi à telle ville, etc. Mais si j'en reste qu'à ce souhait de me rendre à Paris, et que je ne me mets jamais en route, je ne serai jamais à Paris. Ça, c'est l'aspect étude. Donc après, il faut passer à la pratique. La pratique, c'est qu'il va falloir que je prenne ma valise, que je monte dans ma voiture et que je parte à Paris. Ça, c'est la mise en application. Donc il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour l'étude, et après, il faut passer à la pratique. Ça, c'est ce que propose l'enseignement du Bouddha. Et après, on comprend ce qui n'était pas compris. Ce qui était sombre en notre esprit, c'est clair. De notre ignorance, nous acquérons la connaissance, progressivement, et la sagesse. Mais ce sont des expériences directes. C'est pas parce que moi je veux être sage que je vais donner l'image d'un sage à l'extérieur que ça va se faire. Ça sera qu'une mascarade, et c'est ce que l'on fait bien souvent. Quelqu'un qui est sage, il est sage. Ça s'exprime, et en effet, comme dit monsieur, ça rayonne de soi-même. Il n'y a pas besoin de discours. Il n'y a pas besoin de disserter, de vouloir que les gens soient comme ci, comme ça, pas comme ci, comme ça. On devient un exemple pour les êtres. Mais j'ai jamais dit ça mal. J'ai jamais dit que le bouddhisme avait le monopole de l'amour et de la compassion. Jamais. Mais ici, nous sommes dans un milieu bouddhiste, donc on enseigne le bouddhisme, pas le catholicisme ni l'islam. Voilà. Oui.
Oui, justement. Excusez-moi, je n'ai pas une connaissance.
Pourquoi vous vous sentez coupable?
Pas du tout. Je le regrette de n'avoir pas une connaissance du bouddhisme. Et je voudrais que vous nous éclairiez justement. Vous nous avez parlé des cycles des existences et notamment du karma. Donc, j'ai pas bien compris. Le karma, c'est, il me semble, c'est les actions que l'on fait dans sa vie.
Si tu plantes du blé, tu récoltes du blé. Si tu plantes de l'avoine, tu sèmes de l'avoine, tu récoltes de l'avoine, et pas du blé.
Voilà. Et alors, je voulais savoir, lorsque, à la mort, on se réincarne, n'est-ce pas? Suivant nos actions et le cycle des existences, qu'est-ce que vous entendez par ça? Est-ce que ça s'arrête une fois? Je ne sais pas. Éclairez-nous.
D'abord, le Bouddha n'a jamais enseigné ça de cette manière, en parlant de la réincarnation. Le Bouddha a enseigné la renaissance. C'est différent. Par naissance, c'est passer d'un état à un autre. Et c'est sans arrêt dans notre vie quotidienne que nous passons d'un état à un autre. Quand on regarde, par exemple, une photo de nous-mêmes lorsque nous étions petits, et que nous voyons ce que nous sommes maintenant, voilà, c'est pas du tout le même individu. Et même, ne serait-ce qu'on dit que tous les 7 ans, toutes les cellules du corps ont complètement changé. Donc on ne peut pas dire que nous sommes la même personne qu'il y a 7 ans. Hein? Donc. Et c'est ça dont le Bouddha parle, c'est renaissance. C'est-à-dire qu'il y a un changement et un abandon à faire de ce qui était et ce qui n'est plus pour autre chose. Et le moment de la mort, c'est caractéristique bien sûr à l'ignorance, parce que la mort n'existe pas fondamentalement. C'est encore un trip de l'esprit, une parano qui s'exprime de cette manière-là. Mais ce qui se passe après la mort, ce n'est pas forcément une réincarnation, parce que se réincarner, c'est réincorporer un corps fait de carne. Carne, c'est la chair, c'est le sang. Mais ce n'est pas... C'est pas une finalité, c'est pas une fatalité.
Je me suis mal exprimée, mais qu'entend le bouddhisme à la mort? Excusez-moi, je me suis mal exprimée, mais qu'entend le bouddhiste donc à la mort? Que se passe-t-il? Parce que vous avez parlé des existences successives en somme.
Ouais.
Expliquez-nous.
Vous voudriez, madame, que je vous explique en quelques minutes ce qui demanderait, déjà ça a été expliqué dans les
enseignements d'avant,
mais je ne peux pas vous expliquer ça comme ça, madame, c'est pas possible. Tout ce qui est composé, a dit le Bouddha, est impermanent. Tout ce qui est composé est amené un jour à se décomposer. Ce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes un composé. Des 5 agrégats, forme, sensation, perception, formation mentale, conscience, nous sommes un assemblage de tout cela. Ça s'est formé au moment de la fécondation de l'ovule et du spermatozoïde, hein, quand ils se sont fécondés, qui ont donné naissance à l'être que nous sommes, qui sommes un assemblage de tout cela. Cet assemblage va vieillir, selon la loi de l'impermanence, et se désassemblera au moment de la mort. Seul ce qui perdurera après la mort, ce sera la conscience de vie, ou l'esprit, si vous voulez, qui lui est indestructible. Là, je ne parle pas d'âme, hein, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans le bouddhisme. L'esprit qui est lui-même porteur de ses propres tendances. Alors bien souvent, on s'imagine, dans la, l'optique de l'éternalisme, la vision éternaliste, que c'est moi, je, la Masonam d'Angers, qui vais quitter ce corps, et moi, je, la Masonam d'Angers, qui vais en prendre un autre. Non, la renaissance dont il est question, c'est pas ça. Il n'y a pas ce moi, je, individu, qui meurt et qui reprend l'essence en tant que même moi, je, c'est simplement un continuum de l'esprit porteur de ses propres expériences, de son propre karma, qui va se matérialiser d'une autre manière en fonction de ce karma. Et cette matérialisation-là ne sera pas forcément dans un corps fait de chair et de sang, ça peut être sous une autre forme, un corps de lumière ou une essence spontanée dans un autre monde, etc. Et l'expérience continuera. Ça sera un nouveau moi-je, puisqu'il y aura toujours l'ego, tant qu'on n'est pas libéré de la saisie égocentrée. Ce sera un nouveau moi-je qui renaîtra sous une autre forme, porteur lui-même de ses tendances. Mais la vie elle-même est continue. La vie est infinie. La vie, le principe de vie, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir de fin. Ce qui a la fin, par contre, ce qui peut finir, c'est la souffrance dans laquelle nous sommes nous-mêmes englués. La souffrance du cycle des existences. C'est à ça qu'on peut mettre un terme. C'est à cela qu'on peut arrêter, on peut arrêter d'entretenir cela. Et tout ça, donc, ça dépend des expériences qu'on va vivre dans notre vie. Plus on va acquérir de la sagesse, plus on va se libérer de la dépendance à nos émotions perturbatrices et à notre karma, eh bien, moins nous aurons à, jusqu'au moment où nous serons complètement libérés de ces renaissances conditionnées et de souffrance. Donc ce qui renaît dans la vie d'après, c'est un continuum de conscience porteur de ses propres tendances, et pas un moi-je. Et des vies dans celle-ci, selon l'enseignement du Bouddha, j'entends bien, nous en avons eu un nombre incalculable, et les vies après celle-ci, nous en aurons encore d'autres tant que nous n'aurons pas fait ce qu'il fallait pour nous libérer de ce cycle infernal et devenir un éveillé, celui qui est éveillé de cette ignorance, de cette parano dans laquelle nous sommes. L'état de Bouddha, c'est ça. C'est sortir de ce cycle infernal.
Et lorsqu'on est éveillé à ce stade, lorsqu'on arrive à ce stade d'éveillé,
on n'est plus soumis à la souffrance, et après, on peut se manifester sous différentes formes, dans des terres pures, etc. Mais il n'y a plus de notion de moi, bien sûr, de moi-je. Tout est complètement ouvert, connaissant, omniscient, et l'expression de l'amour et de la compassion. Et tous ces êtres, ces grands enseignants qui sont revenus dans notre monde, qui ont pris renaissance, ne l'ont pas fait uniquement étant soumis par leur propre karma. Ils ont repris renaissance dans notre monde uniquement par compassion, pour nous aider à nous montrer le chemin vers les vallées. Mais eux-mêmes en sont complètement libérés. C'est donc la force de leur souhait qui les a amenés à se prendre la forme humaine, comme nous, ils en sont complètement libérés de cela. Hein? Et donc, une fois que nous-mêmes nous sommes devenus des Bouddhas, eh bien, les trois corps qu'on appelle réalisent la Bouddha, Dharmakaya, Sambhogakaya et Dharmakaya, se manifestent sous toutes les formes pour pouvoir venir en aide aux êtres dans les différentes latitudes, les différents mondes, les différentes sphères, à l'infini. Alors c'est difficile à comprendre pour nous, n'anticipons pas. Je sais que vous aimeriez tant tout savoir des réponses à vos questions, mais je ne peux pas toutes les donner, parce qu'il y a des réponses que vous pouvez acquérir que par l'expérience spirituelle, et qui ne sont pas du domaine de l'intellect. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce que vous êtes vous-même, ce que nous sommes nous-mêmes, là, ici et maintenant, et qu'est-ce que je peux faire avec ce potentiel que j'ai là maintenant, à la fois de confusion, mais aussi de sagesse. Comment puis-je utiliser ce potentiel-là pour pouvoir apprendre déjà dans un premier temps à devenir un meilleur être humain et progressivement me libérer de mes propres conditionnements générateurs de souffrance et aider les autres à aller dans ce sens. C'est ce que nous avons à faire dans cette vie. C'est le but unique, seul et unique de cette vie. Tout le reste n'est que vanité, n'est que des choses artificielles qui jalonnent notre cheminement. Le seul travail que nous avons à faire, selon l'enseignement du Bouddha, je rajoute bien entendu, hein, c'est d'apprendre nous-mêmes à devenir meilleurs, apprendre à aimer, apprendre à être compassionné, apprendre à être généreux, à être patient.
On se fait dépouiller quand on est généreux.
Pardon ?
On se fait dépouiller quand on est généreux.
Non, madame, c'est un simulacre de générosité. La générosité, elle est sagesse, quand elle est sagesse par elle-même, elle est plénitude. Il n'y a plus personne pour être dépouillé. C'est quand il y a un ego qui est là, quand je sens dépouillé. Ah, ah
oui.
Oui,
je suis issue d'une famille de 8 enfants, une grande famille. Je suis très heureuse pour eux parce que socialement, ils ont très bien réussi.
Oui.
Malheureusement, sur les 8 enfants plus moi, bien entendu, j'ai une sœur jumelle. Nous n'avons pas du tout le même état d'esprit. Et malheureusement, ils ont suivi une route, tant mieux pour eux s'ils sont heureux d'être... d'un bien matériel, et j'ai toujours été prise pour une originale déjà toute petite, parce que j'étais logique sur les choses de la vie. La question est la suivante: comment peut-on s'aimer soi-même quand on a grandi sur une image de soi qui a été faussée dès l'enfance? À l'âge adulte, comment se retrouver soi-même? Je vous parle intérieurement parce que je sais à peu près ce que je suis, parce que je suis en thérapie depuis 2 ans et demi. Je suis adepte bouddhiste depuis 1 an. J'ai acheté entre autres un livre, l'édition des nuls, qu'est le bouddhisme. J'ai lu entre autres 2-3 livres de votre part. Et j'ai acheté le Dalai Lama. Donc je suis très très bien parce que le message que vous voulez essayer de faire passer. Mais alors aujourd'hui, je ne même toujours pas. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est lui-même un ancien toxico et alcoolique. Et qui ne s'aime pas lui-même.
Ça, certainement, oui. S'il en est arrivé là, c'est qu'il ne s'aime pas beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est possible. C'est possible. De restaurer justement cette dignité intérieure et cette amitié pour soi-même. Et c'est tout le travail que propose aussi la voie bouddhiste à travers la méditation, à la fois au niveau sagesse sur le coussin, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc, il y a donc des outils qui nous sont proposés dans ça, progressivement. Et la réponse, je ne vous la donne pas comme ça, parce que je ne voulais pas. C'est un cheminement, vous comprenez, c'est un cheminement qui est long, mais qui est faisable. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Parce que j'ai vécu aussi ça, dans une autre vie, c'est ce que j'appelle une autre vie. Et en vertu du changement, puisque tout est impermanent, ça aussi, ça peut changer. Mais il faut faire ce qu'il faut. C'est tout le sujet de la 4e noble vérité enseignée par le Bouddha, c'est-à-dire le chemin qui mène à l'extinction de la souffrance. Il y a un chemin.
J'aimerais savoir la position du Bouddha en ce qui concerne la contraception et l'avortement.
À l'époque du Bouddha, la contraception n'existait pas. Et les femmes avortaient, c'est sûr, aussi comme maintenant. Le point de vue fondamental du Bouddha, le bouddhisme, c'est pas un dogme qui est fait d'interdits. Il dit simplement les choses. Si tu fais ça, il y a telle et telle conséquence. À toi de choisir de le faire ou pas faire. Mais de toute façon, lorsqu'il y a avortement, il y a suppression d'une vie. C'est clair, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, il y a souffrance. Et il y a un lien karmique. Et qui est donc engendré entre la mère qui a décidé, le père aussi, qui ont décidé cet acte, et celui aussi qui l'a accompli. Et celui qui en est la victime. Donc il y a un lien karmique qui est engendré, c'est pas un lien qui est basé bien sûr sur le bonheur, c'est un lien qui est basé sur la souffrance. Donc on en a, bien entendu, hélas, les fruits à récolter dans une vie, ou dans celle-ci, ou dans une vie future. Maintenant, bon. Il y a un autre facteur, c'est la motivation qui sous-tend cet acte-là. Tout dépend pourquoi on le fait. Et on dit que tout est basé, bien entendu, sur la motivation. Si la vie de la maman est en jeu, par exemple, ou qu'il y a une possibilité de non-vie du fœtus, etc., bien entendu, mais si c'est simplement pour un confort personnel, là, c'est... Donc tout dépend de la motivation. Mais d'une manière générale, le bouddhisme est non-violence. Préservation de la vie et favorisation de l'éveil et du bonheur des êtres. Donc tout ce qui va à l'inverse, à l'encontre de cela, c'est à éviter, bien entendu, à éviter.
Le Dalai Lama, il l'emploie dans son... J'aime beaucoup le Dalai Lama, il l'emploie souvent face à l'angoisse, s'aimer soi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Voilà. Il veut dire par là, c'est pas aimer son ego, mais c'est aimer la nature de sagesse qui est en nous. Parce qu'il est dit que tous les êtres possèdent la nature d'éveil en eux, tous les êtres possèdent la nature de Bouddha, elle est aussi présente que la crème est présente dans le lait ou que l'huile est présente dans la graine de sésame. Donc nous l'avons en nous, et c'est basé justement sur cette sagesse fondamentale que nous avons. Apprendre à s'aimer, c'est ça, et non pas se baser sur notre ego. Parce que je pourrais très bien dire, moi j'ai décidé de m'aimer à partir d'aujourd'hui, donc je vais satisfaire tous mes désirs, tous mes plaisirs personnels, m'acheter tout ce que j'ai envie, faire tout ce que j'ai envie de faire. Finalement, je n'ai que des droits, et puis c'est tout, et voilà, puisque à l'heure actuelle, c'est ce qui fonctionne. Hein. On parle toujours de nos droits, mais jamais de nos devoirs. Pourtant, d'ailleurs, dans la Constitution française, ça a été aussi bien marqué. Il y avait les droits de l'homme, mais aussi les devoirs de l'homme. On n'en parle jamais, les devoirs, c'est curieux. Hein. Et apprendre à s'aimer, c'est pas suivre ses pulsions, c'est pas suivre ses désirs égotiques, égocentriques, c'est simplement apprendre à se connaître soi-même et savoir qu'on a cette nature fondamentale de sagesse en nous et se baser là-dessus pour travailler avec tous nos aspects dans toute notre totalité, c'est-à-dire confusion et sagesse. Apprendre à s'aimer, c'est être certain nous-mêmes que nous ne sommes pas un sous-produit de la création, mais que nous avons aussi cette part d'éveil en nous et que c'est notre devoir de la mettre en valeur et de la faire s'accroître. C'est ça. Donc c'est restaurer cette dignité. Et la pratique spirituelle, et entre autres la méditation, va nous amener à restaurer cette dignité intérieure, cet amour, pas égotique, mais pour ce que nous sommes. Cette valeur, cette qualité de Bouddha qui est en nous. Donc c'est ça que nous propose aussi donc, la voie bouddhiste, à travers la pratique. Oui.
Juste d'abord, pour préciser, mais ça peut être pour avoir deux mots, je pense, un terme qu'on a souvent employé dans le journal de la pratique du bouddhisme, d'ailleurs, c'est nirvana. Je suppose que ça veut dire extraction des désirs, donc équivalent presque de l'éveil. D'autre part, je vous fais préciser, c'est confirmer que le pire des péchés, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait l'équivalence avec la terminologie chrétienne, je sais bien, c'est l'orgueil. Est-ce que c'est ça?
Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, la source de toutes nos souffrances, c'est l'ignorance. L'ignorance fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que cette ignorance fondamentale? C'est la méconnaissance de notre véritable nature et la méconnaissance de la véritable nature de ce qui apparaît à notre conscience à l'extérieur. Tout vient de là. Et du fait de cette ignorance naît la dualité. De la dualité naît le désir, attachement et l'aversion. Et du désir attachement et de l'aversion naissent toutes les émotions qui viennent derrière, toute la kyrielle des névroses, des psychoses, des combinaisons mentales et psychologiques que subissent malheureusement tous les êtres du cycle des existences. Donc la base même, fondamentalement, c'est l'ignorance. Et quand on parle de nirvana, c'est pas un état ou disons un lieu qu'il faudrait atteindre quelque part dans un endroit, dans l'univers, je ne sais où, c'est simplement un état intérieur. Et cet état intérieur de nirvana, c'est l'au-delà de la souffrance, c'est-à-dire qu'on a éradiqué complètement et définitivement les causes mêmes de la souffrance qui ont pour base l'ignorance fondamentale. C'est ça que propose encore, d'une manière générale et directrice, l'enseignement du Bouddha. Donc il y a un travail à faire sur soi pour ça. C'est pas quelque chose qui va venir tout seul ou par la complaisance de quelqu'un, ou le pouvoir de quelqu'un qui nous amènerait ça, cette qualité en nous-mêmes. Non, parce que le Bouddha a dit, c'est toi-même qui as créé les causes de ta souffrance, il n'y a que toi-même qui peut les éradiquer, ces causes. Et c'est pour ça que j'ai enseigné, dit le Bouddha, l'octuple sentier, c'est-à-dire ce chemin qui mène à l'au-delà de la souffrance. Si tu le mets en pratique, eh bien tu éradiqueras les causes de ta propre souffrance. Mais toi seul peux parcourir ce chemin. Moi, je peux que te le montrer. Je le connais parce que je l'ai parcouru. Mais il n'y a que toi qui peux faire le travail. Et ça, c'est vraiment bien été dit par le Bouddha. C'est vérifiable. Et donc voilà, tout est entre nos mains. Et c'est en ça que le bouddhisme ne nous infantilise pas, mais nous considère comme des gens adultes. Le Bouddha parle à des adultes et non pas à des enfants. Et pourtant, on peut se dire si nous sommes encore des enfants. Il nous a appris à nous responsabiliser. Tu es responsable de toi-même, et par-delà même, quelque part, tu es aussi responsable des autres. Parce que le Bodhisattva lui-même crée ce souhait. Celui, le Bodhisattva, c'est quelqu'un qui a fait le souhait de vouer sa vie au bonheur des autres. Il voue sa vie au bonheur des autres, il a fait le souhait que tous les êtres rencontrent le bonheur et les causes du bonheur. Que tous les êtres soient affranchis de la souffrance et des causes de la souffrance. Mais plus encore, il dit moi-même, je créerai aussi pour vous, je vous aiderai à créer les causes du bonheur. Et je vous aiderai à éradiquer les causes de la souffrance. Donc c'est en ça qu'il est aussi responsable de voir les autres. C'est ça la véritable compassion.
Vous admettez qu'il n'y a pas, à l'inverse de la religion chrétienne, d'état de grâce. Il n'y a pas la grâce qui tombe sur quelqu'un d'extérieur. C'est impulsé par
la grâce est toujours là, selon le Bouddha. Elle est toujours présente. Si nous voulons bénéficier de cette grâce, il suffit de nous ouvrir. Et pour s'ouvrir, ce qui nous empêche de nous ouvrir, on revient à la même chose, le territoire égotique, c'est l'ego. Si on éradique l'ego, on s'ouvre et la bénédiction est là. Elle a toujours été là. Elle est partout, elle apprenne tout. D'autres traditions vous diraient, Dieu est en tout, partout et en toute chose. Nous, on dit autre chose, le Bouddha est en tout, l'éveil est en toute chose. Il suffit simplement de s'y ouvrir.
Ça référait à l'hindouiste, au bouddhisme et l'issu, c'est Sri Ramakrishna qui disait où le bonne femelle qui s'est entrée la grâce.
Bien sûr. Tout à fait. Vous savez, c'est comme un bol, hein. S'il est retourné, vous pouvez essayer de mettre tout ce que vous voulez dedans. Il n'y a rien qui rentrera. Donc il faut s'ouvrir. Et c'est tout le travail que l'on a à faire sur la voie spirituelle. Et ça se fait à travers la relation avec le guide spirituel. Parce que dans la tradition tibétaine, principalement, dans la relation au maître spirituel, au guide spirituel, on dit qu'elle est une condition maîtresse sur la voie de l'éveil. Ouais.
Oui, je voulais vous poser une question sur ce que vous voulez dire. Il y a des pratiques, dans le bouddhisme tibétain, il y a des pratiques qui permettent justement de minimiser l'importance de l'ego. Il y a des pratiques de purification.
Il n'y a pas que dans le bouddhisme tibétain. Dans toutes les formes du bouddhisme, il y a des pratiques.
Celles que je connais.
Ah, ok. Non, mais je tiens à préciser parce que il ne faudrait pas croire que toute la pratique bouddhiste réside uniquement dans la voie tibétaine.
Oui. Voilà. J'ai une autre question sur l'importance du grand univers dans la discussion. Par exemple, sur la pleine lune, sur le fait d'accumuler des actes négatifs de jour-là.
Oui, parce qu'il est dit que nous sommes intimement liés aussi à notre environnement et aux aspects relatifs, nous sommes, puisque nous sommes dans un monde relatif. Il y a des énergies qui circulent dans le cosmos, dans les êtres, dans la matière, dans toutes choses. Il y a certains moments où les énergies sont beaucoup plus fortes que d'autres, qu'à d'autres moments. Donc on utilise, la sagesse justement des Bouddhas utilise ces moments particuliers pour accomplir certaines choses positives, puisqu'il est dit, comme l'énergie est décuplée à ces moments-là, ben les résultats sont aussi décuplés.
J'entendais l'infinité du monde et puis le caractère éternel aussi en même temps, je pense. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas eu de création du monde à un moment donné, et comme dans d'autres religions, il n'y a pas eu Dieu ou un pouvoir divin créateur. Qu'est-ce que...
Voilà, on joue sur les mots. Hein. Faire attention, parce que pour des pratiquants ésotériques, qui soient n'importe quelle tradition, j'en ai rencontré, on a le même discours. D'abord, on n'a même plus de discours, puisqu'on a compris la même chose au niveau ultime. Donc il n'y a plus de concept. C'est interprété de manière différente. Les messages des grands instructeurs ont été les mêmes. Seulement, ils étaient adaptés aux façons de comprendre des gens à l'époque, dans certains pays, dans certaines civilisations, à certaines périodes de l'histoire de l'humanité. Certaines choses ont été comprises correctement et d'autres non. Il y a un pouvoir qui est fondamental, qui est l'esprit. Personne n'a trouvé l'esprit, pas plus les Bouddhas du passé que ceux du présent, et encore moins ceux du futur. L'esprit est ineffable. Il est au-delà de tout concept. Dès l'instant où on lui applique un nom, déjà on est en dehors de sa réalité. Donc ce principe-là, quelle est son origine? Je vous dirais mystère à la boule de gomme. Seul un Bouddha peut-être pourrait avoir la réponse. Il est. C'est la vie. C'est l'éveil. C'est Dieu. C'est Jéhovah. C'est grand Manitou. Appelez-le comme vous voulez. C'est pareil. Ce principe, il a toutes les qualités. Luminosité, connaissance, sagesse, amour, compassion. Il a toutes les qualités d'éveil. Les êtres eux-mêmes sont un reflet de ce principe. Ils portent en eux-mêmes ce principe. Seulement, il est recouvert par les voiles de l'ignorance. C'est nous-mêmes qui créons les mondes. C'est nous-mêmes qui créons le karma. C'est nous-mêmes qui créons les différences d'êtres à travers nos actions. À travers cette vastitude, cette immensitude vide qu'est l'esprit, où tout peut apparaître, tout peut se résorber. C'est une définition, bien sûr, qu'on pourrait approfondir du point de vue bouddhiste. Mais il n'y a pas d'être supérieur qui serait le maître de tout. Il y a des êtres réalisés, qui sont éveillés, qui ont plus de pouvoir que nous, et qui peuvent favoriser certaines choses, nous aider. Tant qu'ils collaborent, ces êtres, avec ce principe fondamental, ils bénéficient de toutes ces qualités. Mais s'ils ne collaborent plus, et c'est là où réside le péché originel, finalement. Je vais peut-être vous décevoir, mesdames, mais ce n'est pas de votre faute. On a tellement dit que c'était de votre faute, le péché originel. Le péché originel, c'est la séparation d'avec notre vraie nature. On a arrêté de collaborer avec notre nature de sagesse fondamentale. C'est ça le péché originel. Et le travail d'une vie spirituelle, c'est de retrouver cette union avec ce principe fondamental. Nous-mêmes, nous sommes Dieu. Mais on ne le sait pas. Et il faut retrouver cette qualité. Et pour ça, il faut nettoyer. Nettoyer l'esprit de toutes les scories, de tous les voiles, des émotions perturbatrices, les voiles karmiques, les voiles des actes erronés accumulés à travers des vies qui nous empêchent de voir la réalité, notre réalité telle qu'elle est.
Peut-on définir vraiment ce que ça veut dire aimer?
Oui.
Oui.
Le véritable amour, c'est souhaiter que tous les êtres soient heureux. Et se souhaiter en même temps que tous les êtres rencontrent les causes mêmes du bonheur. Et non seulement souhaiter, mais mettre tout en œuvre pour favoriser cela. C'est ça le véritable amour. Donc il n'y a pas de notion d'ego. Parce que bien souvent, quand on parle d'amour, nous-mêmes, en tant qu'être humain, c'est toujours l'amour que nous connaissons pour quelqu'un ou quelque chose qui nous fait plaisir. Et le jour où il ne nous fait plus plaisir, notre amour s'est transformé en colère ou en haine. Donc on ne peut pas appeler ça de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est au-delà des concepts. C'est quelque chose qui jaillit du cœur. C'est la sagesse même qui jaillit du cœur. Cette sagesse n'est pas partielle. Elle n'est pas « je vais aimer celui-ci, pas celui-là ». Un Bouddha, il aime tous les êtres de la même manière. Tous les êtres sont ses enfants et il les sert de la même manière. C'est ça le véritable amour. Et la sagesse, c'est d'acquérir cet amour-là. Et ça peut s'apprendre. Parce qu'on n'a pas, c'est pas acquis de départ. Donc c'est tout le travail spirituel qui va nous permettre de faire épanouir ça en nous-mêmes. Donc c'est une expérience intérieure profonde qui doit jaillir même comme fruit de notre pratique. Voilà, je crois qu'on est arrivé à un peu au terme. Est-ce que vous avez encore peut-être une ou deux questions avant qu'on termine ?
Moi, je voulais aborder le problème conscient, parce que nous,
En fait,
je voulais aborder par rapport à nos actes. J'ai bien compris qu'on était dans l'ignorance. Mais est-ce que notre ignorance n'est pas aussi conséquente de notre inconscient, des actes, ou du scénario familial, que j'appelle social, qu'on reproduit parce qu'on n'a pas ce que je sais pas. Lorsqu'on reproduit, lorsqu'on prend de la psychanalyse, nous dit qu'on a un inconscient. Mais est-ce que le Bouddha, il serait d'accord avec cette notion-là?
D'une certaine manière, oui, mais ce n'est pas amené de la même manière. Pour vous donner un schéma, par exemple, une idée qui va nous parler, parce que nous sommes des gens très modernes, nous sommes tous informatisés. Prenons l'exemple de l'ordinateur. L'ordinateur, il a un disque dur. On va lui rentrer certains programmes dont on a besoin, et lorsque nous allons lui demander un certain travail avec le clavier, eh bien, il va aller chercher les données dans ses programmes pour répondre à ce qu'on lui a demandé. À nous, c'est pareil. À travers nos vies passées, nous avons accumulé toutes sortes d'actes, et que toutes sortes d'expériences qui sont inscrites, dont les tendances fondamentales sont inscrites en nous-mêmes, comme sur un disque dur, que les psychologues, les psychanalystes appellent l'inconscient, que nous on appelle l'anaya. L'anaya, en sanskrit, c'est la mémoire, on pourrait dire, ou le réservoir des tendances de l'esprit confus, parce que ce réservoir il n'existe que dans la confusion. Et lorsque nous allons nous trouver face à une certaine situation, eh bien, notre conscient va aller puiser dans cet inconscient les données qu'il connaît pour répondre à la situation. Et c'est très notoire face à une situation. Autant que nous sommes ici, nous allons assister à un événement extérieur à nous-mêmes, et si on pose la question à chacun d'entre nous ce qu'il a vu, on va voir des choses complètement contradictoires. Pourtant, ils auront vu la même chose. Chaque être aura vu la même chose. C'est-à-dire qu'on va répondre à la situation, à l'expérience même, en fonction de nos tendances intérieures. Et c'est ça, nous fonctionnons de cette manière-là.
Mais à ce moment-là, dans notre réponse est en toute bonne foi, on répond comme ça, puisque c'est engrangé dans notre mémoire.
Je ne dirais pas en toute bonne foi, mais en toute ignorance.
Oui, d'accord. Mais alors, justement, comment...
Nous avons causé nous-mêmes les données, c'est nous-mêmes qui les avons introduites dans notre inconscient à travers, en effet, nos vies passées, et la manière dont on a vécu dans cette vie, dans nos rapports avec les êtres. Donc voilà, c'est à nous de nettoyer ce disque dur. Hein.
C'est pour ça que le péché de la pureté a dit se libérer de nous. C'est la raison pour laquelle aussi le péché de la pureté, je crois que la position de la vie, parce qu'il est issu de la pensée orientale, la bouddhisme bouddhiste, mais un peu à faire, un électron libre, si on peut dire, mais il a écrit merveilleusement, savoir se libérer du connu, c'est un peu ça.
Oui, de ce qu'on croit connaître, parce qu'on connaît rien, finalement. On connaît les apparences. Mais c'est de se défaire de ces conditionnements, c'est ce que propose l'enseignement du Bouddha, ces conditionnements qui nous entravent, qui nous lient à la souffrance, qui perturbent et qui, bien sûr, n'est pas utile aux autres, puisque ça crée la souffrance chez les autres. Et c'est de ça dont il est question. Et ces tendances, elles sont à nous, c'est ce qui fait ce que nous sommes, la manière dont on réagit face à certaines situations. Pourquoi il y a des gens qui réagissent d'une manière sereine, avec amour à certaines situations, et d'autres sont pris par la peur, par la colère, ou par d'autres. Là, tout ça, c'est lié à nos tendances, qui sont en nous. Et pourtant, la situation est la même. Donc on a tout un travail à faire de remise à jour du programme. Bon, on va terminer là-dessus. Puis comme je propose, comme nous sommes des gens généreux, eh bien, à la fin de tout enseignement, eh bien, on fait la dédicace de tout ce qui a été dit pour le bienfait de tous les êtres et la paix dans le monde. Je vais faire un petit état. Si vous le souhaitez, puisque les dates ont été établies pour l'année prochaine, donc en ce qui concerne.